Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania.
En tant que jeune cancéreuse, je ne sais pas moi si les gens vont être ouverts à m'engager. Je le souhaite parce que je suis vraiment bonne, mais...
On s'en doute, un cancer, ça vient avec un bon lot de peur, de nuit blanche, d'angoisse, mais il y a une source d'anxiété dont on parle très peu, qui est pourtant très présente, et c'est l'argent. Alors aujourd'hui, on se demande comment survivre financièrement au cancer autour d'un café avec Evelyne Morin-Hull, collègue recherchiste chez Urbania, Houda El-Kerchi, qui a subi de plein fouet les conséquences monétaires de la maladie, et avec Chantal Leblanc, travailleuse sociale au Centre du cancer des cèdres du CUSUM. Merci beaucoup, beaucoup de venir parler d'un double tabou aujourd'hui, cancer et argent. Pour commencer, Houda, quel impact a eu la maladie sur tes finances?
Quels impacts?
Oui,
exactement. On peut facilement parler d'appauvrir une personne.
Tu as dû quitter ton emploi.
J'ai quitté mon emploi, j'étais en arrêt de maladie. Mm-hmm. Et c'est là où je me rends compte que je n'ai que 15 semaines comme assurance maladie.
Parce que c'est ce qui est offert au public qui n'a pas d'assurance privée, c'est ça?
Exactement. C'est là où je me suis rendu compte, après le diagnostic, que j'étais juste à ma première séance de chimio quand mes 15 semaines ont terminé. Donc, à un certain moment, tu te retrouves sans revenu, sans aide. Donc, tu te retrouves endetté. Si tu t'échappes au cancer, tu ne t'échapperas jamais à ces dettes. Mmh. Ça veut dire, même si tu as la chance de guérir et tout ça, et puis par la suite, les dettes restent. Et ça, c'est un vrai souci. C'est sûr que ton estime de soi est touchée, ton orgueil est touché, parce que malgré toi, tu es obligé d'accepter les aides, peu importe que ce soit financière, que ce soit des fois même la nourriture, mm-hmm. Tu es obligé de les accepter. Maintenant, tu n'es plus dans la mesure de dire ben, « non, je suis capable de subvenir à mes besoins par moi-même ». Tu n'es pas capable.
Parce que moi, je me souviens, quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer, la médecin qui me l'a annoncé, bon, déjà, premier choc, vous avez le cancer. Mm-hmm. Et rapidement, quand je lui ai dit « je suis pigiste, je suis contractuelle », OK. Avez-vous des assurances? On avait une assurance invalidité, mais tu sais, qu'on avait pris il y a 5 ans avec la maison. J'étais enceinte à l'époque. Puis là, honnêtement, je me souvenais plus vraiment c'était quoi les conditions de cette assurance-là. Donc, rapidement, c'est comme quand vous allez retourner chez vous, là, tu sais, appelez vos proches, mais appelez votre assureur aussi.
En même temps, dans les priorités.
La même journée. Oh oui, moi, je pleurais avec ma mère d'un côté pendant que mon chum fouillait dans nos papiers puis faisait des téléphones. Quand tu n'as pas d'assurance, tu tournes vers le gouvernement. Oui. C'est 15 semaines. Pour vous donner une idée, mettons là, moi, je viens de faire 6 mois de chimiothérapie. Après ça, je me fais opérer. Après ça, j'ai de la radiothérapie. Après ça, je vais être fucking brûlée.
Mais
on va
oui,
se le dire. C'est
oui.
à peu près 9 mois, 1 an de ta vie minimum. Mm-hmm. 15 semaines, c'est 3 mois et demi.
C'est,
ouais. c'est rien. Mais en même temps, quand tu as l'aide financière de tes proches ou que tu as des économies, mais si tu veux faire, par exemple, appel au bien-être social, tu n'es pas éligible.
Non.
Beaucoup de gens n'ont pas d'assurance salaire. Donc, l'employeur, des petites entreprises, des travailleurs autonomes,
selon les statistiques, je pense que c'est 45% des
oui.
Québécois,
oui.
si je ne me trompe pas, n'ont
oui.
pas cette assurance-là.
Souvent, les gens vivent de paye en paye, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Puis ça, c'est la réalité dans notre société. Donc, les gens vivent avec peu de coussins. Donc, un petit changement dans leur revenu, bien, ça entraîne des grosses conséquences. Donc, l'assurance-emploi, c'est 55% de notre
exact.
Salaire. Donc, déjà, c'est très difficile. Fait que ça amène beaucoup, beaucoup de stress.
Puis, quel conseil vous leur donnez?
Bien, on peut en parler, hein, que c'est une situation qu'on rencontre. Les gens sont un petit peu gênés hein, d'amener des questions. Je suis pas capable de payer mon loyer. Je suis en retard dans mes comptes courants. Ça l'amène une certaine gêne. Donc, dans mon travail, c'est vraiment d'ouvrir une discussion sur les finances. Je fais un portrait budgétaire, on regarde avec attention ce qui se passe.
Non, mais c'est vrai ce qu'elle a dit, parce qu'à un certain moment, j'étais obligée, j'ai appelé une amie, puis j'ai dit, est-ce que votre offre de levée de fonds est toujours là parce que c'est la rentrée scolaire
oui.
Et puis j'ai besoin d'argent.
Fait que c'est une levée de fonds des collègues.
Exact. Puis pour faire ce pas-là, je peux te dire que ça m'a pris déjà, je ne sais pas combien de mois chez le psychologue, parce que je ne suis pas une personne qui peut demander. Oui. C'est vraiment très dur.
Tu sais, tantôt, je disais qu'on avait une assurance invalidité privée, que je n'ai pas contractée encore, que je n'ai pas demandé. Moi, je n'ai jamais été en arrêt de travail jusqu'à maintenant. Quand au mois d'août, j'ai eu mon diagnostic, j'étais pigiste pour un contrat de recherchiste en télé. À ce moment-là, je n'avais pas de traitement, mais mentalement, je ne pouvais pas travailler. J'étais sous le choc. Mon employeur, il me restait un mois à ce contrat-là. Dès le lendemain, elle m'a dit « je te paye jusqu'à la fin ».
C'est magnifique.
C'est une aide financière qu'elle n'était pas obligée de m'offrir. Puis ça m'a permis pendant un mois de me préparer à mes traitements, de prévenir ma famille et tout. Puis après ça, je ressentais le besoin d'essayer de travailler. Pas à temps plein, pas avec des charges aussi grosses.
Pour de la raisons. Maison. Pour
de la maison.
Pour protéger ta santé. Tu avais quand même un...
Ouais, tu sais, j'avais comme... J'arrivais avec un plan puis des contraintes, si tu veux. Mais l'ouverture de mes collègues et de mes boss ici, je pense, ont contribué à ma guérison, à ma santé mentale aussi, parce que le cancer, ça isole, parce que justement, tu veux pas tomber malade. Ça m'a permis, c'est ça, de pas être seule. Puis c'est sûr que financièrement aussi, ça m'a enlevé ce stress-là. Puis ça m'a changé les idées beaucoup. Je dis pas que des fois, j'étais pas fatiguée, mais tu vois, je me dis que justement, dans la vingtaine, dans la trentaine, je dois pas être la seule à peut-être essayer de concilier travail et cancer. Oui.
Pourquoi t'as pas contracté ton assurance invalidité?
Bien, parce que pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin que mon médecin me signe un arrêt de travail. Mais en même temps, c'est nono, mais on dirait que c'est comme si je jouais au Monopoly. J'ose pas la contracter d'un coup qu'il m'arrive quelque chose de pire un jour puis que j'en aurais vraiment besoin. Même chose pour la...
Mais c'est quand même dérangeant qu'on ait à calculer comme ça.
Tu sais, je suis comme, OK, je sais que je l'ai, ça me rassure, mais je vais me la garder d'un coup qu'un jour, ça va plus mal. Puis d'être contractuelle, puis juste en ayant le cancer, je pense que j'avais besoin de me rassurer et de rassurer mon employeur présent et mes employeurs futurs que je suis correcte. Engagez-moi.
Ouais.
Parce qu'il y a cette peur-là aussi qu'un jour, en tant que jeune cancéreuse, je ne sais pas moi si les gens vont être ouverts à m'engager. Je le souhaite parce que je suis vraiment bonne. Mais, mais tu sais, tu comprends?
Oui. Mais c'est vrai qu'elle a soulevé un point qui est important parce que même moi aussi, ça fait un an que j'ai retourné au travail. Je double mes efforts pour que mon employeur ne dise pas que parce qu'elle a eu le cancer et il travaille moins, il fait moins bien son travail, tout ça. Mais en doublant mes efforts, je me fais réellement
mal. Mais pourtant, je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que l'employeur, là, dans la loi, il y a une responsabilité envers son employé?
Ben oui, il y a des normes de travail, il y a des protections au niveau des travailleurs. L'employeur doit offrir des accommodements qui sont raisonnables avec le portrait de santé. On ne peut pas congédier quelqu'un qui a un problème de santé.
Qu'on soit pigiste ou pas.
Oui.
Puis en plus de toute cette pression-là, il y a un truc dont on n'a pas parlé, avoir un cancer, ça coûte cher.
Moi, je travaille beaucoup avec plusieurs fondations.
Il existe des regroupements qui peuvent soutenir donc financièrement.
Oui. Beaucoup de fondations. Moi, je travaille avec la Fondation des Cèdres. J'ai des fonds humanitaires. Je vais aider les gens à payer des comptes courants, de l'épicerie, des frais de médicaments, des frais de stationnement. Fait qu'on a accès à des ressources quand même importantes. Mais les gens, souvent, ne sont pas au courant.
Je trouve qu'il y a un trou d'aide pour les 20-40 ans. Quand on pense cancer, on a une image très forte des enfants qui ont le cancer. On a une image, justement, des personnes âgées. Mais moi, j'ai des amis, par exemple, ils ont eu un diagnostic une semaine après avoir fini leurs études. Ils n'étaient pas encore établis sur le marché du travail. Ils sont dans la vingtaine. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont peut-être pas de conjoint. Ils n'ont pas d'assurance. Ils ont pas... Et en plus, ils se sont pas fait un nom dans leur métier. Fait qu'ils sont dans une espèce d'entre-deux. Ils n'habitent plus chez leurs parents, mais... Ça, c'est quand même particulier parce que...
C'est autres, inhabituel, en fait, j'ai l'impression.
C'est méconnu.
Dans notre perception du cancer, de voir un jeune adulte malade.
C'est 4 % des cancers au Canada, en fait, les jeunes adultes de 18 à 39. Fait que c'est pas une... C'est pas une population qui est nombreuse, mais les besoins sont très grands. Souvent, nos jeunes, tu sais, parce qu'ils sont, ils ont de l'énergie, tu sais, qu'on leur dit, ben là, c'est des traitements très intensifs, va falloir que tu arrêtes. Ben là, ils nous regardent en disant, ben non, je peux pas arrêter l'école, je peux pas arrêter le travail parce que
ils ont
c'est ma vie. C'est ma vie, je suis capable. C'est correct, hein, quand on est jeune, on se sent capable, puis ça fait partie de le.
Mais j'ai une question, justement, en tant que jeune, puis pigiste encore particulièrement. Oui. Comment on peut se protéger? Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est quoi l'assurance idéale pour se protéger?
Oui, puis il faut pas se mentir, beaucoup de gens ont juste pas les moyens d'avoir une assurance privée.
Exactement.
Ça coûte extrêmement cher.
Oui.
Fait que, il faut être dans une certaine classe.
Ou il faut être riche pour avoir le cancer.
Oui, c'est
puis
ça.
C'est la majorité qui n'ont pas les moyens aussi. On parle d'une grande majorité.
Mais quand même, oui, c'est une bonne question. En fait, quand on a une assurance salaire, c'est sûr que c'est optimal. Mm. Mais il faut sensibiliser les gens à l'idée qu'on peut être malade à tout moment dans notre vie. Puis de dire, est-ce que j'ai prévu? Hein? Parce que quand la maladie arrive, les gens ont dit « j'aurais jamais pensé avoir un cancer ».
Et ça va toucher 45 % des Canadiens et Canadiennes selon les dernières statistiques.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévoir?
Ouais. On est deux, vous êtes corrects. Autour de la table, c'est réglé.
C'est comme ça que ça fonctionne, je pense.
L'enjeu de l'assurance-emploi, je considère que c'est un très gros enjeu.
Pourquoi on est obligé de faire une loi fixe pour tout le monde?
Pour toutes les maladies, plutôt que s'ajuster à la gravité.
Exactement. On s'ajuste. Telle personne a besoin, par exemple, de deux mois, deux mois. Telle personne a besoin d'un an, un an. S'il y a besoin de plus, plus. Oui. Et puis c'est tout.
Parce qu'il faut savoir que nous, on a 15 semaines de prestations, mais que dans plus de 90 pays, on offre 26 semaines ou plus. Fait qu'il faut savoir que même sans personnaliser, le Canada est très en retard.
Je pense que ça prend plus de pression, plus de démissions.
Moi, j'avais même posé la question directement au premier ministre. Ben, on ne peut pas aller plus haut que ça.
Puis sa réponse?
Sa réponse, on va se pencher.
Ah! Bon, ben parfait.
Ben, on attend toujours.
Il est toujours penché.
Il y a un bon mal de dos. Merci, mesdames, pour le partage, la vulgarisation, le travail de littératie économique aussi, qui est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à changer, puis j'ai l'impression qu'on va continuer à en parler, mais merci de l'avoir fait aujourd'hui. J'imagine que ça demande beaucoup, beaucoup de courage.
Ça fait plaisir.
Merci.
Merci.
Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.